Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord du cargo de Radio Caroline en mode post-scriptum féminin. Aujourd'hui, histoire de revenir sur de fameuses, marquantes et singulières personnalités croisées lors de récents épisodes de Radio Caroline, mais sur lesquelles nous n'avions pas eu l'occasion de nous attarder. Telle la dessinatrice Claire Bretécher, dont les mentors anticonformistes furent Goscinny puis Gottlieb, est connue entre autres pour ses frustrés ou encore Agrippine, croquant sans indulgence celles et ceux qu'on n'appelait pas encore les bobos ou les affres de l'adolescence. Également à bord aujourd'hui, le duo de leaders du premier groupe punk anglais, The Slits, les Fentes, Hurry Up et Vive Albertine. Et en bonus, via une goûteuse interview Maison Millésime 1979, Françoise Hardy, qui disparaissait en juin 2024, il y a donc un an. Un récent épisode de Radio Caroline, que je vous recommande, fut dédié à l'irrévérencieux et transgressif dessinateur Marcel Gottlieb, qui, il y a 50 ans, en mai 1975, lançait son mythique magazine de bande dessinée Fluide Glacial, 3 ans après avoir créé L'Écho des Savanes, avec notamment Claire Bretécher, l'une des très rares autrices dessinatrices de cette nouvelle vague de la BD amorcée dans les années 60 et qui emportera tout sur son passage lors des 70s. Alors, penchons-nous sur la vie de cette formidable frondeuse. Née à Nantes le 17 avril 1940 dans une famille bourgeoise, Claire Bretécher passera sa scolarité à la confrérie des Ursulines de Jésus. Mais à 19 ans, tant pour fuir l'ambiance nantaise qui l'insupporte que pour s'éloigner d'un père violent, elle part pour Paris, s'installe à Montmartre, alors quartier interlope, vit de petits boulots, enseigne l'art plastique dans une école pendant 9 mois, avant de proposer des dessins à différentes publications du groupe catholique Bayard Presse. À l'époque, la presse catholique, qui lui est familière, a la réputation de bien payer ses contributeurs. Le dessin de presse, les strips, la bande dessinée, peu importe, je voulais dessiner et mon but était de manger grâce à cela, confiera-t-elle. Claire Bretécher collabore donc au Pèlerin, à Rallye Jeunesse ou encore à Record, Record magazine pour lequel Tabary et Goscinny ont créé le personnage Is No Good. Goscinny, qui, frayant désormais avec cette jeune dessinatrice, écrira pour elle le Facteur Rhésus, les aventures délirantes d'un préposé des postes, membre d'un parti politique improbable, le groupement réactionnaire conservateur, favorable au retour à l'âge de la pierre, taillé mais non poli. Il ne s'agit pas véritablement d'une bande dessinée, mais plutôt d'illustrations accompagnant un texte dactylographié placé sous chaque case. Un récit dessiné qui sera publié dans L'Os à moelle, revue humoristique et loufoque que Pierre Dac avait lancé juste avant la guerre, interrompue par elle, et qu'il vient juste de relancer, donc 20 ans après la Libération. Cela dit, cette première collaboration entre Goscinny et Bretécher fait long feu. J'étais flatté de cette proposition, se rappellera-t-elle, et puis je n'étais pas en position de refuser, mais Goscinny me faisait dessiner des trucs que je ne savais pas faire. Un ravalement d'immeuble, par exemple, je suis nul pour dessiner un ravalement d'immeuble. D'ailleurs, il n'a pas été content du tout du résultat et ne me l'a pas envoyé dire, avec courtoisie, cela dit, comme toujours. Alors, au milieu des 60s, Claire Bretécher se tourne vers le journal Tintin, collaborant aussi avec son concurrent Spirou, pour lequel elle développe les Gnangnans, une série humoristique mettant en scène des bébés qui parlent comme des adultes, s'étonnant de la puérilité des grandes personnes qui les entourent. Mais en 1969, elle retrouve Goscinny, par ailleurs patron du magazine Pilote où prospère la dérision et l'anticonformisme, pour lequel elle va inventer Cellulite, une parodie de conte de fées médiévales dont l'héroïne, une princesse au physique ingrat, se désespère de trouver un prince charmant malgré l'insistance de son père volage et érotomane. Jalon de la bande dessinée féministe, lige Cellulite célèbre l'éclosion du style Bretécher, un trait relâché en diable, des décors réduits à leur plus simple expression et des dialogues au scalpel qui font mouche. En 1973, Claire Bretéché glisse ses dessins dans le mensuel écologique Le Sauvage. Elle y publie les amours écologiques du bolo occidental, dont le personnage principal est un chien obsédé par le sexe et qui cherche à se reproduire avec des animaux en voie d'extinction. Mais bien vite, c'est le Nouvel Observateur, autre magazine et non des moindres du même groupe, qui l'engage en lui octroyant une page hebdomadaire. S'y épanouiront, si l'on peut dire, ces fameux frustrés, sorte, je le disais, de bobos avant l'heure, le terme n'existe pas encore, intellectuels parisiens, militants de gauche, 68ards rhétoriciens, snobinards sûrs de leurs convictions et autres névrosés pathétiques sont ainsi croqués par sa plume trempée dans le vitriol Dixit. Claire Bretéché accède dès lors à une forte visibilité dans, et c'est la première fois, un magazine généraliste et non plus de bande dessinée. Elle s'est placidement installée en travers de notre courant, écrira l'un des boss du Nouvel Observateur en préface du premier recueil des Frustrés paru en 1975. Elle est l'obstacle rieur et le regard en biais. C'est en se tordant qu'elle met en histoire nautique nos réflexes, nos secrets accommodements avec le ciel des idéologies. Elle est notre contre-pouvoir. À propos de ce premier volume des Frustrés, qui sera couronné par le prix du scénariste français du Festival d'Angoulême en 1975, il faut savoir que Claire Bretéché l'a auto-édité, histoire de ne pas dépendre de grosses maisons d'édition et d'être totalement libre. Et ce sera également le cas des quatre suivants, qui connaîtront tous un gros succès, seront traduits en plusieurs langues, débarqueront en version animée à la télé, avant que Dominique Lavanant et Josiane Balasco n'en fassent la première adaptation théâtrale. Bref, au milieu des 70s, Claire Bretéché est dans la place et en 1975, la télé belge s'intéresse de près à elle, à commencer par Françoise Wolff pour sa série Contre-enquête du côté des femmes.
Certains vous diront qu'elles sont laides, vos femmes.
Mais les hommes aussi, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire, ben, voilà, justement, on trouve que les femmes sont laides parce qu'elles ont toujours été dessinées gentiment. Dans Astérix, la pin-up est une espèce de petite figure à la Walt Disney, mignonne comme Blanche-Neige, bon, vous voyez, comme la Belle au bois dormant. Et les hommes, par contre, sont très marqués. Les sept nains sont très marqués, Astérix et Obélix sont très marqués. Alors, à partir du moment où on les dessine tous les deux de la même façon, crac, vous faites des femmes laides. Dément. Alors, et on me dit même, vous êtes misogyne parce que vous faites des femmes laides. C'est vraiment... taper la tête contre les murs.
Est-ce que vous croyez alors aussi qu'une certaine libération de la femme peut venir si justement elle se détache de cette image pin-up et d'objet sexuel ?
Oui, oui, ça c'est une épouvantable contrainte, mais on a du mal à s'en défaire parce qu'évidemment on veut toujours, enfin, un homme, une femme veut toujours plaire plus ou moins à l'entourage, alors on en rajoute un peu, mais enfin c'est quand même un boulot, moi je trouve.
Un boulot de ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui est un boulot ?
Un boulot de vouloir répondre aux. Au format classique.
Est-ce que là aussi, il y a une frustration ou un malaise, justement, dans le fait de ne plus pouvoir ou de ne plus vouloir répondre au format classique ?
C'est-à-dire, moi, maintenant, je prends un peu de bouteille, alors je me calme. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment un tel... Enfin, comme toutes les filles, il n'y avait que ça. C'est-à-dire que les filles, bon, elles ont du mal, à se brancher sur un boulot intéressant, en grande partie, à mon avis, parce que... Elles pensent sans arrêt à leur physique, à leur allure générale, et il faut sans arrêt se conformer aux filles de elles, etc. Donc ça demande une tension d'esprit constante, finalement. Ça paraît ridicule, mais c'est vrai. Et moi, étant gosse, j'ai passé les 8 heures par jour à penser qu'à ça. Alors je trouvais que c'était quand même un peu gros, quoi. Alors moins on va dans ce sens-là, mieux ça vaut.
En 1975, toujours, mais dans un mode plus léger, complice et un brin ironique, c'est cette fois le jeune Gilles Verland, qui présente alors l'émission Tempo à la RTB, comme on disait alors, qui est allé retrouver chez elle Bretéché.
Comment ça se passe la création ?
C'est un phénomène complexe qui part de l'hypothalamus avec une réaction enzymique sur le cervelet interne droit. Et qui aboutit à des. Qui excite des filaments nerveux qui excitent l'index et le pouce de la main droite. Et quelquefois, ce phénomène peut être remplacé par un coup de pied au derrière, ni plus ni moins.
À la base de ce phénomène, il y a l'observation.
À la base de ce phénomène, il y a la nécessité impérative de rendre un travail. À mon avis, c'est vraiment tout. Tout le reste est littérature.
Thank you. de cellulite. C'est un personnage qui est d'abord d'une profondeur psychologique invraisemblable, mais en plus de ça, c'est une femme très moche, tout à fait ridicule.
Oui, mais elle a une très belle âme.
Je n'en doute pas. Pourquoi avoir créé ce personnage?
Vous savez, c'était à l'époque où, pour faire de la bande dessinée, il fallait suivre le schéma classique type Astérix ou Lucky Luke, c'est-à-dire avoir un personnage très typé, susceptible d'avoir des aventures qui se déroulent sur des tas d'albums. Il n'y avait pas tellement le choix. Hein.
C'est quand même une anti-héroïne.
Oui, parce que c'est plus simple de faire une anti-héroïne directement que de faire un héros flanqué d'un anti-héros, ce qui se passe toujours finalement. Parce qu'un héros flanqué d'un anti-héros, ça fait deux personnages à dessiner. Si vous faites un anti-héros directement, ça n'en fait plus qu'un, donc il y a un gain de temps.
Parlons un peu des gnangnans. Est-ce que vous aimez les enfants d'abord?
J'ai de la sympathie, mais... Je trouve qu'ils sont pas si romantiques qu'on le dit.
Vous n'en avez pas?
Non.
Vous aimeriez en avoir?
Pardon?
Vous aimeriez en avoir pour pouvoir...
J'ai pas l'énergie nécessaire pour à la fois bosser et m'occuper d'un amour. Sinon, j'aimerais assez, oui. J'aimerais bien en avoir 5 ou 6 si j'étais un homme et que si j'avais une bonne femme qui s'en occupait.
Quel est pour vous le rôle de la femme dans la société actuelle et... Le rôle que vous en donnez par vos dessins?
C'est d'embellir tous les jours plus la vie de l'homme.
C'est tout.
Et de la semer de roses. Et ainsi de suite. Enfin, vous savez aussi bien que moi. C'est ce que j'explique d'ailleurs à longueur de dessin.
Et ça amène la femme à être d'une certaine façon un esclave. Et ça se voit aussi dans vos dessins.
Non, parce que sa liberté consiste justement à servir l'homme et à le vénérer, à le chérir, à le foutre sur un piédestal continuellement.
Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette interview?
Parce que je pense que ça peut faire vendre mon album. Peut-être que je me trompe. Auquel cas, j'aurais fait la connaissance de charmant jeune homme.
Claire Bretéché avec feu notre ami Gilles Verlan en 1975 dans Tempo.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
On le disait, Claire Bretéché a le vent en poupe au milieu des années 70 et en 1976, alors que Roland Barthes la qualifie de meilleure sociologue de l'année, elle participe au lancement d'une revue 100% féminine, Anana, créée par les Humanoïdes Associés, par ailleurs éditeur depuis peu d'une nouvelle revue de science-fiction, Métal Hurlant. À Nana, auquel la censure mettra fin en 1978 après 9 numéros. La revue a d'abord été interdite aux mineurs à la suite d'une livraison comportant un dossier consacré à l'homosexualité. Puis son 9e et dernier numéro sera carrément censuré, interdit à cause d'un dossier dédié à l'inceste et dès lors jugé pornographique, alors qu'aucun journal masculin au contenu réellement pornographique ne sera jamais interdit. Après ça, toutes les autrices d'Anana n'ont eu d'autre choix que de retourner à l'édition jeunesse, l'espace assigné aux femmes pour raconter des histoires sages aux enfants, confiera Chantal Montellier, qui fut de l'aventure de Anana et qui, à l'époque, restera l'une des rares, avec Bretéché et Annie Götzinger, à persévérer dans sa voie. Mais non sans mal, à chaque fois que je présentais mes planches à un éditeur, poursuit Chantal Montellier, il se contentait de les compter pour vérifier que le nombre y était, mais sans les regarder. On parlait de Moebius, de Chaland, de Tardy, mais jamais de mon travail. Je me sentais infériorisé, expliquera-t-elle, et d'en déduire, l'imaginaire féminin dérange l'ordre et le système, qu'une femme soit capable de produire des images agresse l'inconscient des hommes, c'est la peur de se confronter au regard de l'autre. Mais revenons à sa copine Bretéché. Au début des années 80, elle lâche ses frustrés, qui commençaient un peu à tourner en rond et à lasser, pour la maternité, du moins en dessin, la vraie viendra plus tard, signant Les Mères, un album au scalpel sur les angoisses de la grossesse. Puis viendra Le Destin de Monique, sur le thème des mères porteuses, Après quoi, en 1988 et pour une vingtaine d'années, c'est l'adolescence qu'elle disséquera à travers le personnage d'Agrippine. Et cette fois, c'est le célèbre sociologue Pierre Bourdieu qui voit dans ses planches une dimension quasi ethnographique. Claire Bretéché est devenue une personnalité publique et d'aucuns considèrent que son style fait vendre. Elle est donc sollicitée par la publicité et illustre des campagnes pour la RATP, le métro parisien, autant que pour la grande distribution, la fête des vendanges de Montmartre ou les produits Tripier. Ces représentations des femmes, loin des stéréotypes qui ont longtemps prévalu dans la presse illustrée, lui vaudront d'être érigée au rang d'égérie du féminisme, statut qu'elle acceptera un peu malgré elle, sans jamais chercher à s'engager dans un quelconque mouvement, ne se réclamant d'aucune idéologie, et préférant renvoyer les commentateurs à certains thèmes récurrents de son œuvre, comme la contraception ou les inégalités professionnelles entre les sexes. C'est ce qu'on pourra lire dans un journal au lendemain de son décès, le 11 février 2020. Affaiblie depuis la mort de son mari, le juriste Guy Carcassonne, 7 ans plus tôt, et atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Il y a quelques semaines, nous nous glissions dans les années punk, puis post-punk, entre New York et Londres, de la fin des 70s au début des années 80, celle d'une certaine Angela Jagger. Adolescente à l'époque et dans la soixantaine aujourd'hui, elle vient de publier un livre titré I Feel Famous, Punk Diaries 1977-1981, compilation de ses journaux intimes, étourdissants, créatifs, illustrés de photos, mais aussi de dessins et portraits colorés au crayon. Et parmi ses portraits, celui d'un groupe qu'elle a fréquenté ces années-là, le premier band punk féminin anglais, The Slits, emmené par Harry Up et Viv Albertine. Pour rappel, les Slits, c'était ça. A Boring Life, The Slits au Roxy de Londres. Viv Albertine, qui ne faisait pas partie des Slits lors de sa formation initiale en 76, mais qui ne tardera pas à les rejoindre quelques mois plus tard, littéralement aspirée par l'énergie qui se dégage du groupe et de sa leaduse, Harry, elle revient donc sur ce contexte où, dans la musique, le style qu'on affichait comptait bien plus que le jeu. Je ne savais pas vraiment écouter, analyser la musique. J'étais incapable de savoir ce qui était joué faux ou pas, en rythme ou pas. Et d'ailleurs, ça m'était égal. C'était pas le but. Pour être franche, c'est ce non-professionnalisme qui me manque terriblement dans ce que j'entends aujourd'hui. Maintenant, quasi tous les musiciens ont appris la musique. Ils jouent tous brillamment en concert. Mais dans ce cas, pourquoi jouer sur scène? Tout cela est tellement bourgeois. Quand elle voit les Slits pour la première fois, Viv Albertine est fascinée par la chanteuse principale, Ariane Daniela Foster, alias Harry Up, figure indisciplinée et indomptable du band. Harry Up, qui n'avait que 14 ans lorsqu'elle a formé ses Fantes, ses Slits, mais qui baignait déjà dans un milieu propice. Né à Munich, en Allemagne, en 62, ses parents bossent dans l'industrie musicale. Son père, Frank Foster, a connu un certain succès dans les années 50 et 60 comme chanteur de schlag, donc de variété allemande. Et sa mère, Nora Foster, organisera des concerts rock, devenant pote avec Jimi Hendrix ou encore avec le leader de Yes, Jon Anderson, qui deviendra d'ailleurs le parrain de Harry. Mais trouvant la société allemande trop rigide et séparée du père d'Ariane, Nora quittera Munich pour s'installer à Londres avec sa fille. Londres, où, dans la seconde moitié des 70s, elle devient la guerrière punk, telle qu'on la surnomme à l'époque, guidant les projets musicaux et le groupe de sa fille, The Slits, créé alors que, je l'ai dit, Ariane n'a encore que 14 ans. De son côté, Viv Albertine, à la même époque, grâce à la guitare électrique achetée avec l'argent légué par sa grand-mère, a fondé un groupe en 76, un petit groupe sans lendemain, qui n'a d'ailleurs rien enregistré. Enfin, elle l'a quand même fondé avec Sid Vicious, futur Sex Pistols, avant de rejoindre The Slits. Et au sujet de Harry Up, Ariane donc, elle raconte. L'anglais était sa deuxième langue et ce n'était pas facile. Pour elle, elle a dû se battre pour être prise au sérieux et y est parvenue. Harry était la femme la plus énergique que j'ai jamais connue. Son comportement était révolutionnaire.
I repeat for those who haven't been here before. My name is Harry Peach now. And I repeat, Harry Peach.
Vindicative, The Slits, extrait d'un de leurs premiers concerts. Harry était à peu près la même sur scène qu'en dehors, raconte Viv Albertine. Bruyante, en quête d'attention et totalement insouciante. Lors d'un concert londonien bondé, elle a fait tomber sa culotte en plein milieu d'une chanson et a fait pipi sur scène. Mais un tel anticonformisme joyeux aura un prix. Être attaqué, se faire cracher dessus, être insulté, moqué, faisait partie de notre vie. Mais pire, Harry a été poignardé à deux reprises en 1979 lors d'une hystérie anti-punk alimentée par les tabloïds, dit encore Vive Albertine. On a évoqué le milieu familial de Harry Up, mais qu'en était-il de celui de Vive Albertine ? Au sein des Slits, Vive Albertine a trouvé une sorte de sororité punk. C'était excitant, mais c'était extrême. C'était dur et épuisant. On vivait ensemble jour et nuit, on dormait tout par terre, on sortait tout ensemble dans la rue. C'était tellement dangereux d'être punk et femme. Et notre apparence, comme notre comportement, rendait la situation encore plus dangereuse. On devait être ensemble parce que sinon, c'était vraiment trop risqué. D'ailleurs, le groupe a implosé à cause des pressions qu'on subissait en tant que femme, c'est sûr. Un groupe masculin aurait duré beaucoup plus longtemps. Avec le recul, Vive Albertine explique aussi que beaucoup de ceux qui étaient attirés par le mouvement punk et s'y plongeaient souffraient plus probablement de troubles de la personnalité, conséquence de gros problèmes familiaux. Et c'était mon cas, précise-t-elle. Je pense que ma famille était mentalement déficiente, ce qui a fait de moi une marginale. J'ai été, pour le meilleur ou pour le pire, élevée dans une sorte de crudité et de passion démonstrative, ce qui ne cadrait pas très bien avec la société anglaise, mais collait parfaitement avec le punk. Nous n'aurions pas pu être qui nous étions, aussi bruyantes, folles, provocatrices et choquantes, si nous avions eu de vrais pères que nous aimions à nos côtés. À cette époque, les pères avaient la meilleure chaise, le plus gros morceau de viande, l'homme était considéré comme le maître de la maison, même si le mien a lamentablement échoué à ce niveau. Un père traditionnel aurait été inquiet de nous voir sortir habillés comme ça et de nous comporter de cette manière. Si nos pères avaient réagi différemment, nous n'aurions pas pu vivre la vie effrénée que nous avons menée. Les parents de Vive ont très vite divorcé et sa mère, très aimante, elle participera aussi, et finalement de façon positive, à ce qu'est devenue Vive. Dans une interview donnée il y a 3 ans, et dont je vous diffuse un extrait, elle explique que si elle est devenue cette fille rebelle en colère, ce qu'elle est toujours, à plus de 60 ans, c'est grâce à la façon dont sa mère l'a élevée dès l'âge de 4 ans, en la poussant à se questionner sans cesse, à se battre. Ce ne sont pas les 18 mois que j'ai passés dans le mouvement punk qui ont fait ce que je suis, c'est elle.
What made me this rebellious, angry young woman, and now older woman, who, you know, who's fought and questioned everything in life? Was it that 18 months in so-called punk? No, it was my mother. She set me up from the age of 4 to be this person.
Je suis en colère contre tant de choses, ajoute Vive Albertine. La classe sociale, le genre, la société, la façon dont on nous contraint mentalement à nous comporter d'une certaine manière sans le savoir. Je me sens tellement oppressée par tout cela que j'ai envie de tout détruire. Certains diront que je suis amère et perverse, mais et alors ? J'ai 63 ans et je suis une marginale depuis le collège. Quand on s'est battu sans relâche pour rester positive et créative, eh bien, montrez-moi un seul être humain qui ne serait pas en colère après tout cela. Allez, on change radicalement de style avec Françoise Hardy. Pour conclure, petit retour comme promis sur Françoise Hardy qui nous a quittés il y a 1 an. Avec une juteuse interview accordée à Edmond Blatchen pour son émission Chanson, c'était un programme musical diffusé chaque semaine sur Télé 2, ancien nom de la 2, durant la saison 1978-1979. En 79, Françoise Hardy vient de réaliser un album avec Gabriel Yared sur lequel on trouve « J'écoute de la musique soul », parole de Michel Jonas. Françoise est donc invitée à participer à l'émission dans le studio de la RTBF Liège où se déroule ce programme, par où Julien Clerc est déjà passé et où viendront bientôt Serge Gainsbourg et Francis Cabrel. Mais Françoise Hardy préfère que l'équipe vienne à elle, vienne l'interviewer à Paris dans l'hôtel particulier qu'elle partage avec Jacques Dutronc. L'accueil sera particulièrement froid, méfiant et même davantage, m'a confié Edmond Blatchen il y a quelques jours. Mais au final, l'interview vaudra vraiment le coup avec une Françoise Hardy plus franche et cash que jamais. Mais d'abord, générique.
On se dit que chaque fois le dernier album de Françoise Hardy, c'est un événement. On se dit aussi que c'est peut-être le dernier parfois. J'entends
moi, je
et je lis
moi,
ça.
Je me le dis.
Moi, je me le dis parce qu'évidemment, je ne pense pas que ce soit un métier qu'on puisse faire toute sa vie. Surtout à partir du moment où on l'a commencé en composant les chansons. Et je dis souvent dans les interviews comme ça que je ne suis pas suffisamment chanteuse, je ne me considère pas comme une chanteuse, comme une interprète suffisamment valable pour pouvoir continuer une carrière d'interprète, et qu'à partir du moment où j'ai plus tellement la possibilité de me renouveler sur le plan de la composition et de l'écriture des chansons, donc je suis plus près de la fin, évidemment, que du commencement.
79, on est beaucoup à la nostalgie des années 60, des années où vous avez été présente, un peu comme une princesse pour beaucoup de jeunes. Françoise, que pensez-vous de cette nostalgie des années 60, très actuelle ?
Je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses intéressantes à l'heure actuelle. Je trouve que cette époque-là était une époque tellement peu créative et peu originale, si vous voulez, où tous nous étions très influencés par les chanteurs américains et où nous nous contentions de faire des mauvaises copies de ce que faisaient. Je trouve que ce n'était pas vraiment, vraiment intéressant.
C'était pas
plus
votre cas,
en tant
vous.
Que phénomène. Ah oh, si, moi aussi, j'étais très inspirée. J'ai fait des chansons qui étaient des copies qu'on forme de chansons, enfin très inspirées, très influencées, de chansons américaines ou anglaises. J'étais totalement influencée par ça, comme tout le monde d'ailleurs. Et je trouve que vraiment, tous ces gens qu'on a appelés, toute cette époque yéyé, étaient vraiment complètement, pas stérile, mais vraiment pas très original. Et je trouve qu'il se passe depuis... pas seulement maintenant, mais enfin depuis plusieurs années, qu'il se passe plutôt plus de choses que durant ces années 60. Je parle pas seulement pour moi, je parle pour Sylvie, je parle pour Johnny, pour Richard Anthony, tous ces gens de cette époque-là n'étaient pas des créateurs, vraiment. C'était des gens qui se contentaient d'essayer de chanter, et qui arrivaient d'ailleurs beaucoup moins bien. Je parle pour nous tous, hein. Des trucs qui étaient déjà faits, qui avaient été créés par d'autres, si vous voulez. C'est en ça que je trouve que ce n'est pas intéressant, vraiment.
Vous dites « nous tous », vous parlez d'une grande famille.
Quand je dis nous tous, je parle donc des gens qui ont commencé à chanter vers les années 60. Le terme famille, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'effectivement, à partir du moment où je sais que, par exemple, Sylvie, que je vois pas très souvent, que je voyais plus souvent il y a certaines années, quand je la revois maintenant, j'ai l'impression de ne pas l'avoir quittée, et j'ai l'impression qu'on fait un peu partie de la même famille, effectivement, parce qu'il nous est arrivé à peu près le même genre de choses, à peu près à la même époque, quoi. On a l'impression vraiment d'être des vieilles copines, alors que finalement, on s'est pas vu suffisamment souvent pour pouvoir le dire, mais l'impression est là.
Les années 70 sont plus créatives. Vous pensez que des noms comme... Jean-Michel Jarre, Michel Berger, Michel Jonas, maintenant, auxquels vous vous êtes associé plus récemment, sont des gens plus importants musicalement que les gens que vous fréquentiez dans les années 60 ?
Que les gens des années 60, oui, mais avant cela, il y a eu des gens qui ont été très importants, par exemple Jacques Dutronc.
Par exemple,
non, mais c'est vrai, je le pense sincèrement, je pense que lui a amené quelque chose vraiment avec Lanceman de très original. Du reste, beaucoup de gens, dont Alain Souchon, sont, à mon avis, qui ont du succès à l'heure actuelle, sont directement influencés par lui, peut-être sans le savoir. Et puis il y a eu Julien Clerc aussi, qui aussi a amené quelque chose, pour moi, hein, mais enfin ça reste un peu subjectif, de tout à fait original, de moins influencé, si vous voulez, par les musiques anglo-saxonnes que les chanteurs des années 60.
1979, Françoise Hardy et Edmond Blatchen dans Chansang sur Télé 2. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler. Enfin, vous connaissez la chanson « Belle journée » ou « Bonne nuit ».
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.